Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne John Ngomboa. Il est journaliste et il est directeur des informations d'antenne à une télévision privée qui émet de Kinshasa. Bonjour John Ngomboa.
Bonjour Jules Maté, bonjour à tous les éditeurs de Radio Okapi en RDC et à travers le monde.
Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association Dynamique des femmes juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mukongomani. On me dit qu'elle n'est pas encore là et va nous rejoindre. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaombo Soucha, il est spécialiste en politique internationale et il est coordonnateur des chercheurs indépendants à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Bonjour Timothée Tchaombo Soucha.
Bonjour cher Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs de Regard sur l'actualité.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de cette journée d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Nous sommes dans Regard sur la totale de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de John Ngomboa, il est journaliste et il est directeur des informations d'antenne à une télévision privée qui émet de Kinshasa. Maître Nelly Mbangulumbulumbu, membre de la société civile du Nord Kivu, elle est présidente de l'association Dynamique des femmes et juristes DFJ en sigle et coordonnatrice du réseau des organisations féminines Sauti Yamama Mukongomani. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaombo Soucha, il est spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir quid du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et le M23 proposé par le président angolais João Lourenço. L'archevêque Dodo Kamba propose la mise en place d'une commission vérité et réconciliation avant la tenue d'un dialogue national. Et enfin, protection des civils et respect des droits humains. Plusieurs violations des droits humains sont signalées dans la province du Nord Kivu et surtout dans les parties occupées. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet du 20e anniversaire de la constitution de la RDC. En effet, 18 février 2006, 18 février 2026, 20 ans depuis la mise en application de la constitution de la République démocratique du Congo, adoptée par référendum et promulguée sous le régime de Joseph Kabila, ancien président de la République. Ceci marque le début de la Troisième République. La constitution de 2006 compte 229 articles répartis dans 10 titres des principes fondamentaux. En 2011, la première révision constitutionnelle est intervenue toujours sous le régime de Joseph Kabila. Elle a notamment modifié les modes d'élection du président de la République, passant du scrutin des deux tours à un scrutin à un seul tour. Chose qui avait suscité des critiques dans les camps de l'opposition et d'autres analystes politiques. En octobre 2024, le président Félix Tshisekedi a annoncé depuis Kisangani la nécessité d'une nouvelle réforme constitutionnelle en insistant sur une constitution élaborée par les Congolais et tenant compte des réalités congolaises. John Ngomboa, 20 ans après, quelle évaluation vous faites de la mise en application de la constitution de la RDC?
Je pense que cette constitution a eu l'avantage d'exister en ce sens que elle a été un compromis entre des belligérants. il était loin de se douter que le RCD, le MLC, le gouvernement, le RCD-KML, j'en passe, pouvaient trouver un point d'intersection. Et ça a servi à cela. Mais cela dit, cette constitution a aussi eu à démontrer ses limites, sur lesquelles je ne vais pas revenir ici parce que c'est tout un débat. Mais la constitution mérite d'être révisée ou peut-être d'être changée totalement. Mais je crois que le grand problème qui se pose, c'est les moments, le moment choisi, parce que chaque fois que cette initiative de changement constitutionnel est prise, c'est toujours à la veille des échéances électorales, et pour d'aucuns, ce changement est juste un outil pour pouvoir permettre au régime de rester plus longtemps au pouvoir.
Merci Timothée Tchaoubo Soutcha. Cette constitution garantit la jouissance des droits fondamentaux, entre autres les droits aux soins de santé, à une nourriture saine, à la libre circulation, aux manifestations pacifiques et à la liberté d'expression à tous les citoyens congolais. Mais quand vous observez la société congolaise aujourd'hui, peut-on dire que ces droits sont respectés effectivement?
Non, pratiquement pas. Non seulement ces droits ne sont pas respectés, mais ils sont constamment violés, et même intentionnellement violés. Et il n'y a même pas d'initiative, même pour ce qui concerne des questions assez simples comme la nourriture, alors que nous régorgeons, je crois, plus de 80 millions de terres arables, d'hectares de terres arables. L'État congolais n'a aucune politique de la relance agricole, ne serait-ce que pour parler de la nourriture saine. L'environnement, par exemple, au premier mandat du président Félix Tshisekedi, il parlait de 1 milliard d'arbres. Vous pouvez compter aujourd'hui, vous êtes journaliste d'une très grande chaîne de radio, est-ce que vous connaissez aujourd'hui un seul territoire où le président a planté un arbre? Voilà des questions comme ça, où même si certains observateurs estiment que c'était une constitution de belligérance, ce qui est vrai. Moi-même, comme journaliste, j'avais milité pour la non-adoption du référendum lors du référendum constitutionnel, parce que pour moi, j'estimais qu'il y avait beaucoup de défauts, mais il y a aussi beaucoup d'avantages avec cette constitution. Mais comme John l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le fait d'avoir une nouvelle constitution ou la modification de quelques articles qui posent problème dans notre pays, c'est l'application exactement. C'est cela le grand problème, qu'on ait une nouvelle constitution ou pas. La nouvelle sera toujours violée, comme celle-ci, qui est toujours systématiquement violée.
Et donc, pour vous, les problèmes ne se situeraient pas dans la Constitution, qui serait inadaptée aux réalités de la RDC, comme l'affirme l'UDPS notamment, mais c'est plutôt un problème d'homme, l'homme congolais, qui ne serait pas disposé à respecter ses propres lois, c'est ça?
Il y a ça, mais il faut dire... cher Guy... La Constitution présente énormément de problèmes qui nécessitent qu'on puisse l'adapter. Par exemple, j'ai oublié l'article qui parle de la superficie de la République démocratique du Congo, ses frontières terrestres, de frontières aériennes, on va spatiales, maritimes, lacustres. Mais aujourd'hui, à l'ère du renouveau de la géopolitique, nous pouvons aussi parler des frontières numériques. C'est une nouvelle matière. Qu'aucun constitutionnaliste n'a... Parce que lorsqu'on parle de cette constitution, comme vous voyez, Internet est arrivé après avec le numérique, l'intelligence artificielle, et que même sur le plan des rapports de force, notre constitution doit être adaptée. Mais ce que je soulève comme question ici, que ce soit même celle-ci qui est imparfaite, elle n'est pas respectée. Que ce soit par l'ancien régime, mais par le nouveau. Le problème, l'homme congolais vote des lois qu'il ne respecte pas lui-même, ou parfois qu'il utilise quand cela va dans le sens de la conservation ou de l'exercice de son pouvoir. C'est cela le malheur qu'il y a dans notre pays.
John Gomboa, vous avez dit que même s'il faut envisager la possibilité de réviser la Constitution, le contexte du moment n'est pas indiqué. Et à votre avis, quels seraient les bons contextes pour que l'on puisse envisager justement soit la révision de certaines dispositions de cette Constitution, soit les changements de cette Constitution pour une nouvelle Constitution? Les bons moments.
Le bon moment, il tient en deux aspects. Il tient dans le temps. Ben, il tient aussi dans l'intention. Dans le temps, en ceci que organiser une révision constitutionnelle à la veille des échéances électorales sera toujours mal perçu. Donc, s'il faut faire ça, autant le faire bien à temps. Deuxièmement, l'intention. Il faudrait déjà clairement qu'il y ait, disons, une cohésion sur... Qu'est-ce qu'il faut changer dans la Constitution et pourquoi le faire? Donc, une fois qu'il y a un consensus autour de cela, le reste est que ça se fait dans une période qui n'est pas proche des échéances électorales. Je crois que le reste se fera tout seul.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Course au pouvoir des Franco Rombo Machiadi et on se retrouve juste après.
Oyembi yembi ngai bofe wana tata ni salongola Oyembe linga babi priveo wana temote balokoso Lelo na babi priveo lobi ekokoma na bafani Lobi na zala ki bofe lelo na komi opposition Bokomi na yembele yembele Lokola mwane tike bandeko Nyoko yoko yembelanga Nezali kaka kurso pouvoi Olobinga na nyatili yazi Yon nyatitonga mon frère Yango ye kurso pouvoi Oyembelinga babi priveo wana demote malokoso Lelo na babi priveo lobi ekokoma na bafani Lobi na zala ki mon frère lelo na komi opposition Bokomi de yembele yembele lokola mwane tike bandeko Yoko yoko yembelanga Nezali kaka kurso pouvoi Olobinga na nyatili yazi Yo nyatitonga mon frère Olinga kanazu wakateo Poto yeba na bomwana Olinga kabatanga kateo Kombo nangana biso na yo Olinga kakosala sombla na mola munga na sarayo Olinga kakoyo kakateo Opoko asali likambo boye Olinga katosala konfewansa Mabaya eko zanga kayo Obo vimi ziki ya batoe Naro kato na yo ya kamiyo Ye kamiyo We'll be right back.
C'était course au pouvoir de Lokangala Diopene Franco Lombo Matiadi. On rappelle que Franco Lombo Matiadi nous a quittés le 12 octobre 1989 à Bruxelles. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. La République d'Angola a proposé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements du M23 à partir de 12h le 18 février. L'annonce a été faite jeudi 11 février par la présidence angolaise en attendant une confirmation publique d'acceptation de cette date par les parties concernées. Cette initiative fait suite à la rencontre tenue lundi à Luanda entre le président angolais João Lourenço, son homologue togolais Faure Gnassingbé, le président congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo. De son côté, le président de la RDC a annoncé vendredi 13 février qu'il acceptait le principe d'un cessez-le-feu tel que proposé par João Lourenço, président de la République d'Angola, désigné par l'Union africaine pour préparer les consultations dans le cadre du processus de paix pour l'Est de la RDC. Dans un communiqué publié ce même vendredi par la présidence de la République, la RDC a pris acte de l'initiative de João Lourenço et salue les efforts constants de l'Angola en faveur d'un retour durable à la paix et à la stabilité dans la région de Gnalak. John Gombois, vous êtes journaliste et vous êtes directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Vous avez souhaité nous parler justement de cette actualité relative au cessez-le-feu tel que proposé par le président angolais João Lourenço. On vous écoute.
Merci Guy Maté. Oui, je voulais parler de cessez-le-feu qui est mort-né ou dont la mort était prévisible. Tout simplement parce que pour moi c'était une déception, pour moi personnellement c'était une déception parce que j'espérais que à partir de cessez-le-feu la situation pourrait connaître une désescalade. Au vu des difficultés qu'éprouvent les populations congolaises dans les territoires occupés par la FCM23, et au vu de ce que cette guerre a comme impact négatif sur notre pays. J'ai dit donc que c'était une déception pour moi personnellement. Mais je n'étais pas non plus surpris de cela parce que, en vrai, il y a eu un jeu de dupes autour de l'annonce de cessez-le-feu parce que les acteurs concernés, Luanda, Kinshasa et le M23, avaient peut-être, j'allais dire, chacun son agenda. On se rappelle que Luanda était très discuté par le M23, AFC M23, qui ne veut pas valider le processus de Luanda et s'est réfugié derrière Doha, simplement parce que l'accord signé là-bas met le M23 comme étant l'interlocuteur du gouvernement congolais. C'est une position de confort pour le M23 qui, en vrai, aspire à occuper un pouvoir politique en RDC au travers son mouvement militaire. Alors que pour Luanda, le processus de Luanda met le M23 comme étant l'un des nombreux acteurs parce que le processus de Luanda allait déboucher sur un dialogue et le M23 allait se retrouver dans ce dialogue noyé par une bonne partie de l'opposition congolaise qui ne soutient pas le M23 parce que il faut aussi faire ce distinguo là. Dans l'opposition politique au régime de Tshisekedi, il y a une bonne partie qui ne soutient pas le M23 qui est devenu aujourd'hui un peu. Le soutien au M23 est devenu comme l'indicateur de la nationalité. Si vous aimez le Congo, vous ne soutenez pas le M23. Si vous soutenez le M23, eh bien vous êtes acquis à la cause du Rwanda. Et je pense que ce n'est pas que schématiquement, les faits le démontrent aussi. Voilà pourquoi est-ce que le M23, dès le départ, n'était pas partant. Et on s'est rendu compte qu'ils n'ont pas publié un communiqué. Alors, En ce qui concerne Kinshasa, je crois que le président Tshisekedi avait déjà donné le ton en ce qui concerne la suite des, du processus de Luanda, qui ne serait pas un chèque en blanc et qui n'allait pas absoudre les gens de ceux qui ont commis des crimes de guerre, notamment le M23, de ne pas être redevables par rapport à cela. Il est vrai aussi que le président Tshisekedi manœuvre sérieusement pour ne pas se retrouver en position de subir le M23. Et je crois que il a naturellement ou spontanément soutenu cette position parce que Luanda, le président Lourenço, est aussi d'accord pour que le M23 réponde les actes posés dans l'est de la RDC.
Oui, John,
alors, en ce qui concerne le président, oui.
Oui, quand vous dites que le M23 n'était pas partant, au-delà de cette hypothèse, comment vous expliquez que la présidence angolaise avait précisé que cette proposition a été formulée après consultation des parties impliquées? Et donc, le M23, qui au départ savait qu'il n'était pas partant, mais a accepté quand même d'être consulté, comment vous expliquez cela?
Oui, j'en viens. J'ai dit partant dans le sens où, lorsque la présidence de l'Angola a eu à annoncer la date du cessez-le-feu, logiquement, on s'attendait à ce que les partis confirment. Kinshasa avait confirmé, mais le M23 ne l'avait pas fait. Mm-hmm. Mais évidemment, cela n'excuse pas le M23 du fait qu'ils avaient été contactés au préalable. Et j'en viens justement à ces niveaux-là concernant Luanda. Le M23 et Kinshasa ont reçu un protocole, mais qu'ils n'ont pas signé. Je pense que le M23 n'a pas signé ce protocole pour retourner à Luanda, qui confirme que, voilà, je suis d'accord pour le cessez-le-feu. Et Luanda a dû faire avec, parce que le président Lourenço joue aussi une carte régionale où il compte avoir un rôle majeur, que ce soit dans la région des Grands Lacs, ou dans la SADC, ou dans l'Afrique centrale. Et donc, pour lui, il fallait absolument qu'il fasse cette annonce afin de se positionner. Voilà pourquoi est-ce que je disais que chacun avait son agenda, mais qu'il n'allait pas dans le même sens, et on pouvait prédire déjà que ce cessez-le-feu était amorné. Voilà ce que je voulais dire là-dessus, Guimaté.
Merci, John Ngomwa. Timothée Tchaoumo Soutcha, vous êtes spécialiste en politique internationale, vous êtes coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégique basé en Belgique. Vous êtes aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Initier un cessez-le-feu là où, à la clé, il n'y a pas de sanctions à l'endroit des récalcitrants, est-ce réaliste, Timothée Tchaoumo Soutcha?
Oui, mais c'est exactement ça le problème. Il y a même avec le système des Nations Unies, à un moment donné, vous trouverez que les recommandations des résolutions n'ont pas ce qu'on a toujours appelé en latin la force de contrainte. Donc on appelle à la bonne volonté des acteurs, des parties prenantes, et cela a toujours posé problème. Et lorsque vous savez que le M23, le commandant suprême du M23, c'est le président Kagame, qui a des intérêts dans le Kivu, et que donc le cessez-le-feu sous base de volonté n'est pas réaliste. Alors, il faut savoir ici le fait que le président angolais est animé d'une très très bonne volonté, parce que il faut, comme je l'ai dit, rappeler que nous faisons la RDC fait frontière de plus de 2000 kilomètres avec l'Angola, et que donc le débordement d'un conflit armé en République démocratique du Congo a des conséquences immédiates, et même sur le plan économique, sécuritaire et humanitaire en Angola. C'est ainsi que le président Lourenço s'engage. Mais en réalité, les rapports de force indiquent que le M23, qui n'a pas de force de contrainte ni par les partenaires américains, moins encore par les Nations Unies, moins encore par d'autres médiateurs comme le Qatar, qui a énormément d'intérêt, le M23 va garder ses positions. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, même après la signature des accords de Washington, même après l'appel de João Lourenço, les combats continuent. Le cessez-le, les combats continuent, les localités tombent, on capture de part et d'autre des militaires, des combattants. Donc, ce n'est pas réaliste. Et c'est une question qui devait être résolue de façon systémique, utilisant les institutions internationales pour mettre un petit peu de la pression de part et d'autre. Parce que l'M23 a posé des conditions, était favorable pour le cessez-le-feu, à condition que Kinshasa puisse entamer, commencer à s'exécuter par rapport à certaines dispositions prises à Doha. Rappelez-vous qu'il fallait que Kinshasa libère certains prisonniers, ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Donc, l'M23 dit oui, cessez-le-feu, oui, mais Kinshasa ne respecte pas ses engagements. Donc, le médiateur Lorenzo se trouve devant une situation telle qu'il va falloir avoir un peu plus d'acteurs autour de Lorenzo pour qu'il y ait quelques pressions qui ramèneraient les acteurs autour d'une table et commencer à observer les cessez-le-feu. C'est vraiment pas pratique lorsqu'il n'y a pas de pression de la sanction derrière. C'est pas pratique.
Timothée Tchaoumbo-Soucha, l'attitude de l'UN23 ne serait pas aussi liée au rapport des forces sur le terrain, parce que ceux qui estiment qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts sur le terrain, il est difficile de les pousser à mettre fin aux hostilités, même momentanément, parce que s'ils estiment que cela peut profiter à l'autre partie, je pense qu'ils n'ont pas intérêt, n'est-ce pas, à mettre fin aux hostilités. Est-ce que tout n'est pas lié au rapport des forces sur le terrain?
Ben exactement. J'ai toujours dit que c'est le rapport de force qui dicte le comportement des acteurs sur la scène nationale, sous-régionale et même internationale. Il faut vous rappeler que le M23 devient une armée organisée qui forme tout type de militaires. Ils ont des commandos, ils ont des fantassins, ils ont des spécialistes en combat aérien, ils ont des spécialistes en combat maritime, etc. L'OM23 est en train de se structurer, l'OM23 est en train de poser des actes d'État, comme la gestion de douanes, l'accréditation des ambassadeurs, l'octroi des autorisations de fréquenter le territoire en termes de visa, etc. Les rapports des forces indiquent que l'M23 est en train de se consolider comme un État. Rappelez-vous que même sur le plan économique, la République démocratique du Congo est écorchée de plus de 8% du produit intérieur brut, parce que l'M23 contrôle, j'ai dit tantôt, des postes douaniers importants, des grandes villes importantes, des ports et des aéroports, et des grandes mines. Donc l'M23 a une économie. Donc prendre Kinshasa, soit Kinshasa se trouve dans une posture de radicalité, poser des conditions de préalable, donc Kinshasa sait pertinemment bien que l'M23 ne va pas se plier, et donc pousser quasiment le M23 à se dire, parce qu'au départ ce mouvement n'a pas vocation de faire tomber toutes les villes et de prendre le pouvoir à Kinshasa. Non, il faut vous rappeler que l'M23 a toujours dit de créer un espace où les Tutsis se sentiraient à l'aise ou vivraient dans leur communauté. Et donc, si Kinshasa reste dans ses positions radicales, l'M23 qui consolide, qui vient de former plus de 7000 militaires, qui viennent sortir de leur académie, et il faut vous rappeler ici que l'M23 bénéficie de l'appui direct de l'Ouganda et du Rwanda et des instructeurs militaires internationaux de pays puissants, notamment la France.
La France qui soutiendrait le M23, est-ce que vous avez des preuves?
Le Rwanda est en accord militaire avec la République du Rwanda. Et le Rwanda est en appui militaire logistique avec le M23. Le rapport entre la France et le M23 est direct via le Rwanda.
Merci. Merci, chers auditrices et chers auditeurs. L'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le vendredi 13 février, c'était la date anniversaire de naissance d'Enoch Zamwangana Nsangu, connu sous le nom d'Enoch Zamwangana. C'était un guitariste et auteur-compositeur de l'orchestre Zaiko Langalanga. Enoch Zamwangana est né le 13 février 1951 et est mort le 9 octobre 1992 à l'âge de 41 ans. Il est auteur de plusieurs chansons. Et à l'occasion de cet anniversaire de naissance, nous allons écouter l'un de ses classiques intitulé Nono, contenu dans l'album Jeter l'éponge dans Zaiko Langalanga. On écoute donc Nono et on revient juste après.
ngamba etani nono akomi kolela akomi kolela alomi asonge panga bango na ebisi nono atika kolela sokiri kamoluka moye boto bongisa ikambo ninja mabenga na salaki bombo makoswa bamika no boto kabwana sela mopeto beni sabato sokiri kambo ezali mambo bako bongisa nibalo zali kombo ya nono esukite tosanite mamba ndenge nini yokete ezali bami na yo bazali kwetoksike yo ikambo ninya mabenga nasalaki kokoma kozwa bamikano mpoto kabwana sela moketo benisa bato soki likambo ezali mambo bakobongisa mibalo zali kombo ya nono esuki te tosali te mama ndenge nini yokende nono bazwa eleka yo tika kosilika sukasuka yo bamakanda tiniwaa nasengi yo ndima momoto bwangai mpe osunga ngai ndenge omilingaka nono bomanga na motema ezali ebele nalingaki yo na kati ya motema ndenge na milingaka ngai moko kumwa yo okende soki batuli yo te na bato kobomba telomaki na tunga bwani alomboto nakoki kozana motema nono bazwa eleka yo tika kosilika sukasuka yo bomakanda iniwala nasengi yo ndima bomoto bwa ngai mpe osunga ngai ndenge omilingaka nono bomanga na motema basola kolinga ezali ebele nalingaki yo na kati ya motema ndenge na milingaka ngai moko kukwa yo okele soki batuli yo mpe na bato kobomba telomaki na tunga bwani
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h, heure de Kinshasa, et samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa toujours, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur le 20e anniversaire de la constitution de la RDC. Nous avons également analysé l'initiative d'un cessez-le-feu entre les FRDC et les M23 proposée par le président angolais João Lourenço. Participe à cette émission, John Ngombwa, il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. Et en ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tiaombo Soucha, il est spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Le coordonnateur du Conseil interreligieux congolais CIC en sigle, l'archevêque Dodo Kamba, balise la voie vers un dialogue non seulement inclusif, mais également sincère et utile. Il consulte les acteurs politiques et sociaux du pays en vue de la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Dans un entretien accordé vendredi à Radio Capi, ces leaders religieux saluent la réceptivité des personnes rencontrées et estiment que cette démarche devrait renforcer la confiance et prévenir la répétition des crises sécuritaires en RDC. Après la ville de Kinshasa, le coordonnateur du CIC prévoit d'échanger avec les acteurs politiques et sociaux à travers les pays, y compris ceux qui se trouvent à l'étranger. Timothée Tiaombo Soucha, vous avez souhaité nous parler de la démarche de l'archevêque Dodo Kamba qui propose la mise en place d'une commission Vérité et Réconciliation avant la tenue d'un dialogue national. On vous écoute.
Oui, Guy Mathieu, j'ai choisi ce thème parce que, de mon point de vue, je place la résolution des conflits en République démocratique du Congo, les négociations qui sont en cours, qui balisent le terrain pour le dialogue, comme étant une voie excellente pour la résolution du conflit. Seulement, il faut rappeler, de par le principe, que c'est un système politique organise parfois des commissions préparatoires avant une négociation formelle. Par exemple, ils mettent une mission exploratoire, une petite équipe de gens qui pourront identifier le point de blocage, un petit peu comme le président Lorenzo est en train de faire. Et puis, il y a un groupe d'experts qui, eux, pourront avoir une petite commission qui examine l'ensemble des questions des réformes institutionnelles qui seront peut-être posées. Et certains systèmes politiques mettent aussi des commissions techniques qui voient autour du budget, la sécurité des animateurs, du lieu, là où ils seront. Donc il y en a dans certains systèmes politiques du monde, on peut créer des commissions avant, qui sont des commissions préparatoires. Mais dans un conflit à longue durée, un conflit comme celui que connaît la RDC, où on n'a pas que le M23 comme problème en République démocratique du Congo, nous avons aussi le problème de la mauvaise gouvernance à Kinshasa, l'illégitimité des animateurs qui sont issus d'un processus chaotique, donc il n'y a pas confiance entre le peuple et ses présumés électeurs, mais il y a aussi des groupes armés, et donc oui, la démarche de M. Dodo Kamba est une démarche à saluer, seulement il se pose un problème de qui doit mettre cette commission en place. Voilà pourquoi j'ai dit, dans le système politique congolais, il est très difficile qu'on se réveille un matin, qu'on dit, bon, il faut créer une commission vérité-réconciliation avant. Parce que là, ça sera comme chargé de la marchandise sur un véhicule qui n'a pas de pneus et dont vous ne connaissez pas la destination. Dans le contexte de la crise du conflit en République démocratique du Congo, qui a énormément de crises à son sein, il faudrait d'abord et avant tout que l'on obtienne l'ordonnance portant convocation du dialogue. Et cette ordonnance ne saura avoir lieu que lorsque le président Tshisekedi le prend, sous concertation avec son facilitateur principal qui est le président Lorenzo, qu'on connaisse les lieux dont le dialogue se tiendra. Ensuite, on mettra à l'intérieur du dialogue des commissions vérité et réconciliation, notamment qui est une commission de fond, parce que là, Dodo Kamba a touché directement le fond du problème. Or, le fond du problème se traitera à l'intérieur du déroulé du dialogue. On ne peut pas avoir la commission vérité et réconciliation avant, parce que c'est qui va mettre cette commission en place? Ce sont les membres, les acteurs au sein de ces négociations qui mettront par les facilitateurs mettra la commission en place et désignera à ce moment-là les membres de chaque commission. Il y aura la commission défense-sécurité, il y aura la commission vérité-réconciliation, c'est vrai, il y aura la commission technique, il y aura la commission juridique, administrative, je dirais même la commission stratégique et géopolitique. Il y aura toutes ces commissions à l'intérieur. Il y aura la commission humanitaire. Il faut qu'on en parle. Il y aura la commission de la réforme institutionnelle. Mais est-ce que l'archevêque ou l'évêque Dodo Kamba peut dire aujourd'hui qui peut créer cette commission à partir du moment où nous n'avons pas un cadre juridique? Donc il faut que l'on puisse créer d'abord le cadre juridique, c'est-à-dire le cadre juridique viendra par l'ordonnance du président de la République. Ensuite, les commissions seront créées à son sein. C'est pour cette raison que j'ai voulu choisir ce thème, parce qu'on risque de mettre le charrier avant le bœuf, comme on a toujours dit, et précipiter certaines choses. Il faudrait qu'une fois pour toutes, qu'il y ait un dialogue qui puisse baliser à jamais à une véritable réconciliation nationale, mais qu'on puisse aussi taire les armes sous toutes ses formes. J'ai dit tantôt que ce n'est pas seulement le M23, nous avons une vingtaine de groupes armés. Il faut donc à la fois savoir amener tout le monde autour de la table. Voilà pourquoi j'ai salué j'ai salué déjà Dodo Kamba ce qu'il est en train de faire comme église de réveil, mais j'ai salué la démarche de la CENCO et les CC qui ont de façon méthodique créé d'abord les conditions dans lesquelles on prend langue avec tout le monde. Et ils n'ont pas créé une commission vérité et réconciliation avant, non, parce que ces commissions, ils n'ont pas qualité, les gens qui circulent à gauche, à droite, que ce soit les CC et d'autres confessions religieuses, n'ont pas qualité. Parce qu'il n'y a pas encore un cadre juridique légal.
Timothée Tchaombo,
celui qui va inspirer ce cadre, ce sera le chef de l'État.
Oui, Timothée Tchaombo Soutcha, à part la question que vous posez, celle de savoir qui va mettre en place cette commission, quels pourraient être les autres présenteurs à cette démarche de l'archevêque de Dodo Kamba?
L'autre présentaire, c'est le fait qu'il n'y aura pas adhésion. Il n'y aura pas adhésion à cette démarche-là. Pourquoi? Parce que la vérité réconciliation n'est pas l'apanage du seul évêque ou l'archevêque Dodo Kamba. C'est tout le monde. Vérité réconciliation, moi j'ai toujours dit vérité, réconciliation et justice. Et ce n'est pas l'apanage d'un seul cas, d'un seul cadre, je veux dire d'un seul camp. C'est l'apanage de tout le monde. C'est tout le monde qui vient aux négociations, c'est tout le monde qui vient dire la vérité sur son voisin, sur son frère, sur les compatriotes, et c'est tout le monde qui voudrait la réconciliation. Il y a le M23, il y a les groupes armés, il y a nos populations, il y a l'ensemble de l'opinion publique, des sociétés civiles, etc. Donc la réconciliation, c'est une affaire à la fois des mouvements rebelles, mouvements associatifs, les partis politiques, l'Union sacrée pour la nation qui est le camp présidentiel. C'est l'ensemble des Congolais qui se diront des vérités et qui voudront se réconcilier. Donc, il faudrait qu'une autorité légale puisse prendre la décision par l'ordonnance, créer un cadre de concertation pour ce dialogue. J'ai parlé tantôt du président de la République à travers son ordonnance, mais aussi intéresser tout le monde qui voudrait participer à telle ou telle autre commission. Donc, la démarche de Dodo Kamba risque d'être butée à un problème de la non-adhésion des acteurs si Dodo Kamba voudrait créer cette commission avant.
Merci.
Alors qu'il n'en a pas qualité, il n'en aura pas.
Merci.
C'est celui qui a qualité, c'est le président de la République qui donne corps à ce dialogue à travers son ordonnance qui va créer un cadre juridique légal.
Merci. John Gomboa, comment vous analysez cette démarche de l'archevêque de Dodo Kamba et aussi quelles sont les marges de manœuvre que pourrait détenir l'archevêque de Dodo Kamba pour justement convaincre les parties prenantes d'y bien fonder de sa démarche?
Je crains fort que cette démarche ne soit qu'une simple mission exploratoire. En ce sens que il y a une multitude d'initiatives qui risquent même de débrouiller un peu les cartes. Vous vous rappelez qu'il y a la CENCO, il y a l'ECC, la CENCO, qui s'est mise ensemble avec l'ECC. Il y a eu les églises d'Hervé avec l'évêque Ejiba. J'en ai oublié d'autres. Il y a maintenant l'archevêque de Lukamba. Alors, j'ai dit que la démarche de l'archevêque de Lukamba ne pourra pas aller plus loin que le cercle des gens qui voudront bien le recevoir. Et pour cela, je ne le vois pas aller, par exemple, rencontrer les gens du M23, ainsi de suite. Et donc, pour moi, c'est déjà une limite fondamentale. Bon, évidemment, je rejoins Timothée en ce sens que je considère que parler réconciliation, vérité et réconciliation aujourd'hui, c'est pour moi mettre la charrue avant les bœufs. Il va falloir vraiment que ces dialogues soient convoqués et qu'on ait les termes de référence du dialogue avant d'en arriver là. Bon, moi, je me dis que connaissant un peu le pays, bon, les gens cherchent aussi du travail comme ils peuvent, hein, comme ils peuvent, et je vois ça de ce point de vue. Mais cela dit, je tenais quand même à faire une observation par rapport aux propos de Timothée. Il est documenté que le M23 est un proxy du Rwanda. Et ça, c'est bel et bien dans tous les rapports des Nations Unies. Et de ce point de vue, le M23 n'a aucune légitimité populaire, de représentativité de la population dans les territoires qui sont sous son contrôle. Et pour terminer, le M23 non plus n'est pas le porte-parole de Banyamulenge. Tout simplement, c'est un subterfuge qu'ils utilisent parlant d'une minorité dans un pays des minorités. Et c'est à peine que le M23 a progressé vers le sud Kivu. Et tout leur business s'est passé au nord Kivu, où il n'y a pas de Banyamulenge. Les Banyamulenge se trouvent sur le plateau des Minembwe à Fizi. Et c'est peut-être aujourd'hui où se trouvent déplacés les fronts militaires. Je tenais à faire cette mise au point parce que on pourrait croire que le M23, à part le fait d'avoir pris les armes et d'avoir été soutenu par le Rwanda, a une forme de légitimité dans ces pays qui peut lui permettre de poser des problèmes de gouvernance. Non. C'est comme si un pyromane voulait jouer au sapeur-pompier, quoi.
Oui, s'il faut revenir à la démarche de l'archevêque de Lukamba, l'archevêque estime que sa démarche devrait renforcer la confiance et prévenir la répétition des crises sécuritaires en RDC. John Ngombwa, est-ce que vous partagez ces points de vue?
Non. Je pense que la démarche de l'archevêque de Lukamba est une démarche superflue. Pour être sincère, c'est une démarche superflue parce que moi, sa stature me pose problème. Parce que pour évoquer ces genres de questions, il faut être loin de tout soupçon. Est-ce que l'archevêque de Lukamba fait l'unanimité? J'ai doute fort dans la sphère sociopolitique qui est la nôtre. J'ai pensé que ce serait peut-être l'évêque ou l'archevêque, je ne sais pas, il se donne tous ces titres-là, ça nous embrouille un peu, Ejiba, qui allait pour les comptes des églises des réveils. Mais j'ai comme l'impression que c'est une forme de dissension au sein de l'église des réveils. Et donc c'est peut-être, à mon sens, une forme de positionnement personnel plutôt que autre chose.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Jimmy de Bonnie M. Et on se retrouve juste après.
true love and its wisdom and visions of Jimmy, there's words unspoken and unbroken. Only you can ensure everlasting love.
Jimmy, I would like to drive your car. It don't matter how long, how far. Jimmy, you can have a loving heart and see.
C'était Jimmy du groupe musical Bonnie M. Je rappelle que nous avons dans cette émission John Gomba, il est journaliste et il est directeur des informations d'Antenne A, une télévision privée qui émet de Kinshasa. En ligne depuis la ville de Louvain-la-Neuve en Belgique, Timothée Tchaoumo Soutcha, il est spécialiste en politique internationale et les coordonnateurs et chercheurs indépendants à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Le gouvernement de la République a décidé d'élaborer un rapport sur les cas de violations des droits humains survenus dans les villes de Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu, une année après leur occupation par les groupes rebelles. Le ministre des droits humains, Samuel Bemba, a annoncé cette initiative le mois dernier à l'issue d'une réunion avec le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et celui de la nouvelle société civile congolaise. Selon le ministre, cette démarche vise à établir une documentation rigoureuse, crédible et consolidée des nombreuses violations des droits humains perpétrées dans les villes de Goma et Bukavu durant la période d'occupation rwandaise. Samuel Bemba a également souligné que ces documents de référence servira à la fois d'outils des plaidoyers, des mémoires collectives et des bases pour d'éventuelles poursuites judiciaires. Les travaux consisteront principalement à compiler et harmoniser les différents rapports produits par les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme afin de créer un document unique, exhaustif et structuré, reflétant fidèlement les exactions subies par les populations civiles. Timothée Tchaoumo Soutcha, comment vous analysez cette démarche du gouvernement congolais qui consiste à élaborer un rapport sur les cas de violation des droits humains dans les villes de Goma au nord Kivu et au sud Kivu pendant l'occupation de la rébellion?
La démarche du gouvernement congolais est une démarche intéressante dans la mesure où il y a effectivement énormément de cas d'exaction dans le territoire sous contrôle du M23, mais je crains fort que ce soit une démarche qui n'est pas complète, qui n'est pas exhaustive, parce qu'il faut que la démarche soit totale pour que à la fois on puisse avoir un répertoire de crimes, de violations de libertés et droits humains, que ce soit dans le territoire occupé, mais aussi dans le territoire sous contrôle du gouvernement. Il y a à Kinshasa énormément de dénonciations par des acteurs, notamment de la société civile, sur les cas de violation de liberté, droits humains, même au niveau de territoire sous contrôle du gouvernement congolais. Il faut dire aussi que le gouvernement, le ministre, doit aller jusqu'à élaborer cet outil dans les territoires sous contrôle aussi des groupes armés, notamment des Wazalendo, des Maïmaï, d'autres groupes armés, parce que nous sommes focus seulement sur le M23, mais il y a aussi des territoires entiers qui sont sous contrôle des autres groupes armés, et même là où se trouvent les opérations entre l'armée nationale et la République de l'Ouganda, il faut que le gouvernement puisse avoir un outil assez complet et varié qui servira de référence à la fois pour d'éventuelles poursuites judiciaires et réparations. Donc c'est un élément très important. Mais je voulais revenir en une minute sur ce que John a dit tantôt. Non, je n'ai pas parlé de M23 comme étant un mouvement légitime. Moi, j'ai toujours analysé la question de M23 comme étant dans les règles de la géopolitique des rapports de force. C'est tout simplement cela. C'est de ça qu'il s'agit. Et je n'ai ni pas le fait qu'il y a des rapports qui indiquent que le Rwanda est l'agent principal qui soutient le M23. Donc, John doit s'apaiser de ce côté-là. Donc, je ne mets pas le M23 au même titre que le gouvernement, mais lorsqu'on vous relevez de l'approche d'une perspective réaliste, vous trouverez que le M23 et les gouvernements congolais sont, je vais dire, face à face au dialogue, aux négociations à Doha, et que le M23 représente une force qui, si elle ne vient pas aux négociations avec l'État congolais, cela va bloquer, plomber même la démarche du dialogue. Donc il faut qu'on ait un caractère inclusif ici, que l'on vienne, et toutes ces questions de légitimité seront évoquées dans ce dialogue.
Merci John Gomboa. On revient sur ces rapports que le gouvernement est en train d'élaborer, n'est-ce pas, sur les cas de violation des droits humains survenus dans les villes de Goma et Bukavu pendant cette occupation du M23. Et à votre avis, cet outil peut avoir quel impact sur les actions ou les comportements des groupes armés?
Bon, je crois que c'est un outil qui allait être remis en cause par les groupes armés. Je me rappelle que après cette annonce, moi personnellement, j'ai trouvé que il y allait se poser un sérieux problème des collectes et certainement un conflit aussi dans la perception, parce que cela provienne de Kinshasa, on est sûr que ça sera contesté par le M23. Bon, moi, j'ai trouvé ça un peu superfétatoire. Hein. Je me disais peut-être que, bon, cela justifie les besoins d'affairisme, malheureusement, qui caractérise aussi un peu certains ministres. Mais je crois que ils auraient dû s'inspirer des rapports crédibles comme Human Rights Watch, qui a sorti un document structuré, documenté et qui atteste le fait qu'il y a recrudescence des violations des droits humains dans les territoires occupés depuis que le M23 est là. Et un document comme ça, ils auraient pu s'en inspirer. Mais bon, moi je comprends. Parfois les ministres ont besoin juste de donner l'impression qu'ils font quelque chose d'utile. Il était clair que dès le départ, une telle démarche allait se retrouver face à ses propres limites, quoi.
Et donc, John Ngombo voulait dire qu'un tel rapport élaboré par l'une ou l'autre partie ne pourrait pas être crédible seulement s'il serait l'initiative d'une instance neutre.
Oui, dans le cas de Stens, je crois que ce serait cela. Il aurait fallu une instance neutre qui accède au terrain et qui peut documenter correctement toutes ces violations-là. Et je crois que Human Rights Watch l'a très bien fait. Bon, le ministre des Droits Humains, c'est dans son droit de mener une telle démarche, mais je crois que s'il est sincère avec lui, il devrait savoir que la collecte des informations allaient poser problème et qu'il pouvait y avoir une contestation.
Merci. Timothée Tchambo-Soutchan, nous allons finir cette émission avec vous. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour décourager les violations des droits humains commises dans tous les territoires qui sont affectés par la guerre?
La justice. La justice et la sévérité dans les actions de l'État. Et c'est pour ça que je salue l'intervention de John, parce que pour faire la collecte des informations, les enquêtes, parce qu'il faut documenter des cas précis où il y a des témoignages, etc. Ça doit se faire. Il faut aller dans les villages, dans les camps de réfugiés, dans les camps de déplacés, etc. Le gouvernement congolais aura du mal à accéder dans le territoire sous contrôle de M23, et donc son rapport sera un rapport non fondé sur des réalités de terrain. Généralement, les États payent certains bureaux qui pourront mener des enquêtes pour y arriver. Alors, pour revenir à votre question, il faudrait à la fois, au niveau national, qu'il y ait des institutions, notamment des cours et tribunaux qui prennent les choses en main, mais aussi qu'il y ait, c'est pour ça que c'est utile avec le dialogue qui sera tenu, pour qu'une fois pour toutes, un Congolais ne puisse plus prendre les armes et revendiquer quelque type de droit que ce soit. Il faut que les gens retiennent que, tôt ou tard, il y a des crimes qui sont imprescriptibles et qui seront poursuivis. Si l'État congolais ne sait pas organiser de procès, parce que vous ne pouvez pas avoir accès à ces gens par rapport au territoire dont ils occupent, mais plus tard, la justice internationale interviendra et à ce moment-là, va décourager toute personne, tout individu qui prend les armes pour revendiquer quelques droits que ce soit. Donc c'est la justice et la fermeté qui permettront à ce que les gens ne puissent plus se livrer à des exactions, même pour le plan économique ou quoi. C'est la justice et la fermeté.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. John Ngomboa et Timothée Tchaombo-Soutcha. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la technique, à la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. Nous allons nous séparer avec Fossi, l'autre composition de Nok Zamwangana à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance. Chanson composée dans l'orchestre Zaiko Langalanga. On écoute donc Fossi et on se retrouve le samedi prochain.
Moi, j'ai l'air à ma panaka. Moi, j'ai l'air à mon copain. na pesi yo mote malanga. Kosingala likaka yo motele ya mamalanga, mwasha moinda bokoko, na pesi yo mote malanga.
Mosikala zali,
seko kanisao, seko kanisao,
seyo mamba.
Moi, je dois pas, 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 pas,